Bonjour et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senali et pour cette saison 3, attachez vos ceintures. Je vous embarque dans ma DeLorean pour un retour vers le futur. En parallèle des nouveaux invités, je redonne le micro aux Amcamgrammeurs pour qu'ils me racontent l'évolution de leur métier depuis le passage sur le podcast. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti ! Salut François, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va et toi ?
Ça va très bien, merci, en cette matinée ensoleillée.
Ouais, on est bien.
Bah en tout cas, je suis très contente de te recevoir sur Amcamgram, François.
Bah écoute, je suis ravie d'être là également.
Alors pour la petite histoire, toi François, tu es le créateur du podcast CSM & Co. que j'écoute très régulièrement.
Merci.
Voilà, sache que j'aime beaucoup ton podcast et encore une fois, c'est pas du tout un podcast concurrent. Au contraire, je suis ravie que tous les deux, on puisse faire rayonner les métiers du post-closing. Allez, on va dire ça comme ça, aussi bien sur la partie AM et CSM grâce au podcast. Et l'idée, c'est, tu seras d'accord avec moi, que chacun puisse trouver ce qu'il recherche.
Complètement. Je trouve qu'il y en a pour tout le monde. On a des contenus qui se complètent bien, je trouve, avec des gens qui disent parfois pas la même chose sur les deux. Donc, je trouve ça cool, ouais.
François, toi, tu travailles depuis pratiquement plus de 5 ans chez LinkedIn. LinkedIn que je ne présente plus, hein, le réseau social professionnel dont je ne pourrais plus me passer. Et donc, pour la petite histoire, toi, tu es entré chez LinkedIn en 2018 en tant que CSM. Puis, tu as évolué comme senior CSM avant de prendre le poste de senior client solution manager, plus particulièrement sur la partie de mise en place de campagne marketing sur LinkedIn. Donc, j'ai hâte que tu m'y fasses voir plus clair dans tous ces intitulés. Mais avant de commencer, François, peux-tu me dire quel est ton plat préféré ? C'est pour mes stats perso.
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un plat, en tout cas pour moi ça l'est puisque je peux me faire une soirée avec que ça à manger, mais c'est le plateau de fromage avec une bonne baguette, voilà, donc très un peu franchouillard, mais j'aime bien le bon fromage, voilà.
C'est quoi ton fromage préféré ?
C'est le, alors il va y en avoir deux, le Morbier et le Mont d'Or, donc plutôt côté Jura.
Alors à présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
Donc, tu l'as dit, François Deco, j'ai 38 ans. Et alors, pour démarrer, je suis, ce que j'aime bien commencer par là, je suis le papa de deux petites filles qui ont 2 et 4 ans. Et je commence par là parce que bah, je suis passionné par mon métier, par tout ce que je fais dans mon job et tout ça. Mais le plus prenant, bah, ça reste ça. C'est aussi le plus excitant. Et puis, mine de rien, ça influence pas mal ce que je fais en vie pro. Tu vois, quand je fais pas d'épisode pendant 2 semaines, par exemple, de CSM & Co, bah, en général, il y a des chances qu'elles y soient pour quelque chose. Genre des nuits compliquées, des choses comme ça. Et donc, j'arrive pas à m'organiser. Donc voilà, ça, c'est le premier point important. J'ai commencé ma carrière donc en tant que responsable marketing. Donc, j'étais plutôt dans le marketing, la communication chez un organisateur de salon professionnel. C'était un salon textile et mode, pour ne pas le citer. Ensuite, j'ai passé un an et demi à peu près en Allemagne. J'ai suivi l'amour, tout simplement. Et là, je me suis occupé d'une équipe européenne d'une trentaine de personnes sur de la localisation de jeux vidéo chez Nintendo. Et donc oui, jouer aux jeux vidéo faisait partie de mon quotidien professionnel. C'est assez, assez sympa, mais tu t'endors quand même le soir avec une petite musique de Mario qui te traîne dans la tête. C'est assez, assez spécial. Ensuite, je suis retourné en France. J'ai passé 3 ans en agence de com B2B où j'ai beaucoup appris. C'est hyper formateur d'être en agence de com. On apprend plein de choses et on est très challengé. Et j'ai eu un gros focus sur les réseaux sociaux, surtout à la fin et surtout sur LinkedIn. Et en fait, ce qui s'est passé, comment je me suis retrouvé chez LinkedIn, un jour, on rentrait de vacances et j'étais un peu fatigué par l'agence parce que c'est hyper intense, c'est hyper prenant et j'avais envie de changement et on rentrait de vacances avec ma copine, elle m'a dit, bah voilà, si tu devais choisir une boîte où tu veux bosser, laquelle te vient en tête? Et immédiatement, je lui dis, bah LinkedIn, ça a l'air cool, j'aime bien ce qu'ils font. On voyait souvent des gens de LinkedIn avec qui on travaillait quand j'étais en agence, qui venaient nous présenter un peu ce qu'ils faisaient et ça me donnait super envie. Et donc, ça m'a pris à peu près un an à me préparer en ayant un peu ça comme focus. J'ai donné des cours en école de commerce justement parce que ça faisait partie pour moi un peu des choses qu'il fallait savoir faire pour rentrer. Enfin, il y a une partie formation dans le rôle de CSM. Et je me suis dit, si j'arrive à donner des cours à des étudiants en première ou deuxième année d'école de commerce, je devrais réussir à former des professionnels en entreprise. Ça doit être plus facile. Et donc, voilà. Donc, j'ai attendu un an. J'ai tenté ma chance et j'ai eu le job de Customer Success Manager sur les solutions dédiées aux commerciaux chez LinkedIn, donc un outil qui s'appelle Sales Navigator. Hyper intéressant, plein de projets, etc. En parallèle de ça, j'ai fait des cours pour Open Classrooms sur le personal branding, le networking et les recherches d'emploi, donc qui sont en ligne. Je suis prof voilà, sur leur plateforme, c'est assez rigolo. Et puis, j'ai eu envie de revenir au marketing, qui était quand même quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc, j'ai fait ce move chez LinkedIn Marketing Solutions. Hein, et donc, depuis 2 ans, je suis Client Solution Manager sur ces solutions marketing, toujours chez LinkedIn. Et j'accompagne des entreprises françaises de l'énergie et le gouvernement sur leur stratégie de communication sur LinkedIn. Et enfin, je suis désolé, c'est un peu long. Tu l'as mentionné, depuis septembre, j'ai lancé le podcast CSM & Co. Et dans ce podcast, je reçois des CSM et d'autres personnes autour des métiers justement des CSM, donc leurs managers, des clients, etc. Pour comprendre un peu ce que c'est que le succès client, comment on le définit, comment on le mesure, comment on y travaille, comment on s'organise. Donc beaucoup de sujets très pertinents pour les CSM en particulier, mais aussi toutes les organisations commerciales, je dirais, en général. Et accessoirement, puisque c'est dans ce que tu me demandais, ma grande passion, c'est le hip-hop. Pendant à peu près 20 ans, j'ai écrit, j'étais en studio, j'ai fait des concerts et tout ça. Mais comme tu l'as compris, j'ai pas vraiment percé, en fait. C'est peut-être une bonne chose, je sais pas.
Pas encore, ça va venir.
Voilà.
Ah, mais trop bien.
Tout n'est pas perdu. Je pourrais être le plus vieux rappeur à percer en France, quoi.
Non, mais franchement, c'est hyper complet. C'est un parcours vraiment admirable. Donc, franchement, bravo. Et j'ai hâte, du coup, qu'on rentre dans le vif du sujet sans plus tarder en ce qui concerne, toi, ton poste de Senior Client Solution Manager chez LinkedIn. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux me décrire la structure business chez vous ?
Donc chez nous, il y a 4 lignes de business. Déjà pour démarrer, Talent Solutions, qui sont toutes les solutions de recrutement. Marketing Solutions, donc la communication sur LinkedIn. Sales Solutions, donc les solutions pour aider les commerciaux à mieux prospecter ce qu'on appelle le social selling. Et LinkedIn Learning Solutions, qui est notre plateforme de learning en ligne avec les entreprises peuvent créer des parcours de formation pour leurs équipes. Dans la plupart de ces équipes, sauf celle où je suis en fait, on va retrouver un modèle assez classique de AI. Chasseur, account executive, donc qui est chasseur, et qui va vraiment faire de la prospection dans le dur, entre guillemets. Et quand c'est signé, ça passe à un duo Relationship Manager, RM, et Customer Success Manager. Et donc le RM va avoir pour mission de faire grossir le compte, tout simplement, donc d'aller prospecter à l'intérieur d'un compte déjà signé pour trouver d'autres leviers de croissance, d'autres équipes, d'autres façons d'utiliser nos outils. Et le CSM va accompagner l'entreprise dans la mise en place de la solution qui a été signée, les former, s'assurer qu'ils aient le plan de succès, etc. Et en général, donc les account executives et RM, ils sont aussi aidés d'un SD qui va les aider pour la première étape de la prospection, pour faire tomber les premiers murs et faire un peu de volume. Et eux vont être plus sur la qualification, on va dire, derrière. Et on a une classification assez classique de SMB, Enterprise. Généralement, le SMB est plutôt géré de Dublin, même s'il y a aussi des grands comptes qui sont gérés à Dublin, et Enterprise qui est géré dans les pays en général. Chez LMS, c'est un peu différent, donc LinkedIn Marketing Solutions, où on n'a pas vraiment en fait de modèle chasseur et ensuite une autre équipe qui va s'occuper du compte. On a un duo en fait, Account Director et Client Solution Manager, et on va en fait travailler ensemble. Alors l'Account Director est plus focus sur en effet faire grossir le compte, donc d'aller chercher les filiales, etc. Et le CSM plus sur l'existant, mais on a sur des très grands comptes, il y a forcément une part un peu, une zone grise où on va tous les deux être présents. Donc voilà. Et puis bien sûr, on a plein d'équipes autour du support, des insights, du marketing qui viennent nous aider.
Ok, c'est limpide. Je connaissais pas la fonction de SDR dans le cadre du post-closing. Tu vois, enfin, je vois que vous devez faire tellement d'expansion de compte que vous avez placé le sales development pour aider en fait ce qu'on peut appeler l'account manager ou en tout cas le RM pour vous.
Ouais, qui va vraiment avoir un rôle de faire du volume. C'est vraiment sur des très 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 grands comptes, hein, sur des key accounts ou des très gros en enterprise, qu'il va y avoir ce support possible, mais qui est pas dédié d'ailleurs à un RM qui va s'occuper de plusieurs RM en même temps en général.
Et toi, du coup, tu as combien de collègues qui sont comme toi à la même position de senior client solution manager?
Sur le marché français, on est 10 avec 2 managers.
Alors, est-ce que tu peux me décrire plus précisément, toi, ton quotidien, alors, sur cette partie-là?
Oui, alors en fait, le rôle de Client Solution Manager, c'est vraiment un rôle de consultant, de conseil. Moi, mon objectif, en gros, c'est de m'assurer que mes clients, ils vont lancer des campagnes de marketing sur LinkedIn et qu'ils soient satisfaits des retours, des performances, donc ils vont recommencer et en faire de plus en plus. Ça a l'air simple. En gros, comme ça, c'est vraiment juste de s'assurer que ça fonctionne. Mais en fait, ça suppose plein de choses. Ça suppose de connaître parfaitement leurs enjeux, déjà, leurs priorités, leurs challenges. Donc savoir... On aime bien dire, j'aimerais savoir ce qui fait qu'ils se réveillent la nuit, tu vois, et ce qui les fait un peu se réveiller en sueur en disant « Ah non, il faut que je fasse ça ». Donc, c'est vraiment de les connaître parfaitement, leur montrer quels sont nos produits, comment ils vont pouvoir les utiliser, les articuler entre eux pour atteindre ces objectifs. Donc, il faut qu'on arrive à leur faire passer ce message-là. On va être là aussi dans une phase de recommandation de dispositifs, de budget, de KPIs, vraiment pour les aider à comprendre comment ils peuvent tirer le meilleur de LinkedIn. Il faut créer une relation de confiance. Dans la durée, il faut nourrir cette relation, pas seulement les contacter quand ils lancent une campagne et leur parler des KPIs de la campagne, mais vraiment leur montrer ce qu'ils peuvent faire, les inspirer avec des exemples, leur fournir, je sais pas, des insights, des data qui vont vraiment leur donner envie de faire des choses, leur montrer comment on mesure les résultats, leur recommander les modifications, les rectifications si on voit que leur campagne elle est mal paramétrée par exemple et que les résultats sont pas bons versus ce qu'ils voulaient faire. Il faut qu'on fasse bien sûr des bilans de manière régulière, qu'on les aide à se projeter, parce que en fait nous le fonctionnement c'est que j'en parlerai peut-être un peu plus en détail après, mais en gros les clients qu'on a, nous ils signent pas un contrat comme dans une entreprise SaaS où tu signes un contrat sur un an, sur deux ans, sur trois ans, et le CSM, le Customer Success Manager, il va avoir ce temps-là pour installer le produit, installer la relation. Nous, le client, on lui parle, il peut lancer une campagne en ligne le lendemain ou un mois après, trois mois après, et il peut en lancer à tout moment, il peut arrêter à tout moment aussi. Donc, il faut qu'on ait vraiment cette relation et qu'on l'aide à se projeter une fois qu'il a fait une campagne dans qu'est-ce qu'il pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'il pourrait faire la prochaine fois. On a aussi un rôle qui est de les guider sur leur présence en organique sur LinkedIn, de leur page notamment, parce qu'en fait, tout part de là. S'ils n'ont pas de page et que leur présence n'est pas structurée, ils vont pas souvent mettre en place des campagnes paid, et parfois ils vont partir d'assez loin. Il y en a qui sont encore un peu au début, surtout sur des quand on est sur des grandes entreprises, sur des entités qui sont peut-être un peu moins digitales. Et puis après, ça va être de partager leur succès, de les faire rayonner en interne dans l'entreprise, et puis chez LinkedIn aussi, mais aussi après de leur permettre d'être visibles sur leur marché, dans leur métier, en les invitant à des événements, etc. Pour résumer, l'idée, c'est vraiment de leur apporter de la valeur. Et tu vois, ça va se faire via des études, des insights, des ateliers, donc un peu tout ce dont je te parlais, mais on a tout cet attirail de choses qu'on peut leur partager ou sur lesquelles on va échanger avec eux pour leur montrer en fait qu'on n'est pas une régie publicitaire. Ça, il y a très peu d'annonceurs encore, mais il y en a quelques-uns qui parlent de nous comme une régie, comme une plateforme média. Et en fait, nous, on essaye de devenir bien plus que ça, d'être vraiment un partenaire à part entière de leur stratégie marketing. L'idée, c'est qu'ils pensent à nous dès qu'ils ont, tu vois, qu'ils se disent, mais est-ce que LinkedIn ne pourrait pas nous aider là-dessus? Est-ce que LinkedIn n'a pas, je sais pas, des insights sur ce sujet quand ils sont en réunion marketing, quand ils font leur plan marketing, et qu'ils pensent à nous et qu'ils nous invitent à la table et qu'on travaille avec eux sur ce plan marketing. Donc voilà, c'est ça mon rôle. C'est assez, assez vaste, comme tu peux le voir. Mais c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils réussissent leur stratégie, en fait, sur LinkedIn, mais même hors LinkedIn, en vrai, et qu'ils fassent grossir leur business, parce que si leur business grossit, bah, un peu par ricochet, le nôtre aussi, et ça reste ça l'objectif aussi.
Bien sûr, c'est hyper complet. Et comment est-ce que toi, tu vas piloter tes KPI dans tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs facettes de ton métier, comme tu disais, un peu de consulting, un peu de formation digitale. Toi, tu vas être objectivé sur quoi en fin de compte?
Alors, moi, mon objectif principal, c'est du revenu. Donc ça, c'est assez, voilà, c'est le truc qu'on regarde. On est le duo est incentivé sur un revenu qui est une croissance. Donc ça, c'est vraiment notre KPI numéro un. Et ce que j'ai le plus dur, c'est en fait d'avoir de la visibilité justement sur ce chiffre. C'est pas comme un nombre de contrats qui doit renouveler à une certaine date. Nous, c'est très flottant. Donc il faut vraiment qu'on toute cette connaissance du client et ce rapport qu'on doit avoir avec eux est hyper important, parce que c'est ça qui nous donne de la visibilité, qui sait un peu où on en est. Donc ce chiffre est important. Et en fait, il y a ce chiffre qu'on regarde et qui est notre KPI principal, mais en fait, il y a plein de KPIs qui sont ceux de nos clients qui deviennent aussi les nôtres. Parce que enfin, ils ont tous des objectifs différents, donc plein de KPIs que je vais suivre moi au quotidien, ou en tout cas au moins de manière hebdomadaire et au quotidien sur des très grosses campagnes, qui vont dépendre complètement des clients, du type d'activation qu'ils vont faire. Alors ça peut être des KPIs médias, donc des choses comme le taux de clic, le taux d'engagement, des coûts au clic, conversion, lead généré, enfin toutes ces choses-là. S'ils sont dans nos benchmarks ou au-dessus, je me dis qu'ils n'ont pas besoin de moi. Si c'est plus bas, j'essaie de comprendre pourquoi, je les aide un peu à améliorer tout ça. Donc ces KPIs deviennent les miens, tu vois, je vais suivre en fait, parce que bah, de ces KPIs dépend ce qu'ils vont faire. Je vais aussi surveiller ce qu'on appelle le delivery. Est-ce que le client dépense en fait son budget à un rythme qui est suffisant pour atteindre ses objectifs et ce qu'il avait prévu de dépenser. Parfois, tu vois, quand il y a un event, par exemple, ils font de la promotion pour un event, s'ils n'ont pas dépensé leur budget au moment où l'event va arriver, bah, du coup, c'est de l'argent qui est perdu pour nous, bien sûr, mais aussi pour eux, quelque part, parce que souvent, les budgets marketing, ils sont faits d'une année sur l'autre. Ce qui n'a pas été dépensé est retiré. Ce serait souvent des équipes marketing. Donc, mais pour eux, c'est important. Voilà, c'est des choses assez, assez différentes qu'on va suivre. Ça dépend vachement de chaque client, selon leurs objectifs, selon ce qu'ils font. Et puis, il y a... Alors, ça, c'est des choses qu'on suit régulièrement. Et puis aussi, de temps en temps, on a des QPR. Donc, on va regarder avec le client des choses un petit peu plus, on va aller rechercher d'autres infos. Ça peut être une part de voix, une croissance du nombre de followers, des scores marketing, des choses comme ça, qui sont d'autres KPIs, mais qu'on va regarder de manière un peu moins régulière, on va dire, que pour ces grands messes un petit peu, et mais qui deviennent aussi les nôtres, parce que bah, ils nous disent bah, au prochain quarter, on va re-regarder ce KPI et on veut qu'il ait progressé de temps. Donc ça devient les nôtres. Donc il y a une partie KPI sur lesquelles on est incentivé, qui est vraiment du revenu. Et puis après, il y a plein de KPIs qu'on suit, parce que c'est ceux de nos clients, et si on les atteint, ben on sait qu'on atteint par ricochet notre KPI qui est le chiffre.
Ouais, je comprends bien. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est que contrairement à un SaaS qui va être récurrent, comme tu disais, que ce soit un abonnement d'un an, de trois ans, en tout cas à date anniversaire fixe, toi, tu vas être challengé en permanence finalement.
C'est exactement ça. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, quand un client lance une campagne, il peut aussi l'arrêter à tout moment. Donc, à nous détecter quand il va lancer des campagnes et d'être là pour être sûr que la campagne va au bout, en fait, qu'il ne soit pas déçu au milieu. Si jamais il y a un événement externe, ou si ça peut jouer, un changement, quelqu'un qui change de poste en interne, tu vois, quelqu'un qui avait lancé ce qu'on va appeler un fil rouge, donc une campagne récurrente tous les mois, et puis il y a un changement de stratégie en interne, ou alors ils vont, je sais pas, lancer un produit, changer de nom, c'est une grosse campagne, mais qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Donc, il faut vraiment toujours être là pour s'assurer qu'on sait ce qui arrive, et puis on s'assure que ce soit bien délivré et qu'ils soient satisfaits de tout ce qu'ils activent, en fait.
Bah, on va justement rentrer dans le concret. Alors, vas-y, dis-moi un exemple de campagne qui a été menée par un de tes clients et peut-être une difficulté qu'il a rencontrée. Qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil?
Alors, nous, on travaille beaucoup avec les agences de com, de marketing, forcément, qui sont très présentes auprès de nos clients, qui pilote souvent les campagnes pour eux. Par exemple, on voit arriver une campagne et en fait, la campagne est hyper mal paramétrée. En fait, le conseil qui a été, on va dire, donné ne correspond pas à ce que nous, on aurait donné. Et en fait, là, on se retrouve dans une situation qui est toujours un peu délicate, parce qu'il ne faut pas se mettre mal avec l'agence qui a fait ce conseil-là au client. Mais en même temps, nous, on sait que si le client... Enfin, si on continue comme ça, le client, il va être déçu, il va pas revenir vers nous après. Donc, c'est souvent des moments assez compliqués et on va regarder ça de près. On va essayer de, voilà, de conseiller l'agence, de faire les changements et de les accompagner pour qu'en final, tout le monde en sorte, je dirais, gagnant. L'agence, parce qu'elle gagne la confiance du client, le client parce qu'il atteint ses résultats. Et ces résultats, ça peut être, je sais pas, par exemple, prendre un exemple d'une campagne de génération de lead, donc vraiment... business, et au bout de quelques jours ou quelques semaines, le client pas content, dit je veux tout arrêter, les leads sont trop chers, on arrive à des coûts qui sont exorbitants, ça peut arriver, et on n'en a quasiment pas, ou parfois on n'en a pas du tout, et nous, notre rôle, ça va être de regarder ce qui se passe, pourquoi la campagne elle a pas fonctionné. Et alors il y a plein de raisons. Très souvent, c'est, je sais pas, la créa est pas géniale, le formulaire est beaucoup trop long, il demande des informations que personne a. Je te demande le numéro de Siret de ta boîte, je pense que t'as du mal à le sortir comme ça, par exemple, et c'est des choses qu'on va retrouver. Donc ouais, je pense que c'est, voilà, des exemples assez concrets. Ça va être souvent ça, d'une campagne qui a été lancée qui n'atteint pas les objectifs que s'était fixé le client, et qui va du coup nous être un besoin pour nous d'essayer de ramer un petit peu pour leur trouver des solutions, pour qu'ils puissent relancer des choses. Parce que un client qui est pas content d'une campagne, par exemple, je prends l'exemple de LeadGen, mais un client qui dit voilà, ça a pas marché, on a fait zéro lead sur la campagne, lui, il se dit pas, bah, peut-être qu'on n'aurait pas dû mettre ce champ-là dans le formulaire, mais peut-être qu'on n'aurait pas dû mettre ce livre blanc-là parce qu'il n'est pas intéressant. Lui, il va juste se dire, bah, LinkedIn, ça ne marche pas, on ne va jamais en refaire.
Je suis d'accord. Alors qu'en
fait, il y a sûrement plein de raisons et c'est à nous de, voilà, c'est à nous de l'aider à trouver ses raisons et à lui faire reprendre confiance et à lui dire, mais si on avait fait ça peut marcher, et qu'il retente et lui montrer que ça marche.
Chez vous, les clients, ils sont segmentés par quelle typologie ?
Alors nous, ils sont segmentés. Alors on a deux segmentations. Il y a les très grands comptes qui sont donc gérés depuis Paris, dont je te parlais, et les un peu plus petits comptes. Mais parfois, il y en a des très grands, mais qui sont plus. La segmentation, elle se fait plus par spend, donc par le budget qu'ils investissent déjà chez nous. Et en fait, les comptes vont monter et être gérés souvent depuis Paris après un certain niveau d'investissement. Et après, nous, on est segmenté par activité, donc par verticale. Donc, on va avoir une verticale tech, verticale finance, mobilité. Pour ça, moi, je fais énergie et gouvernement. Je crois que je suis la seule équipe où on a deux verticales. Mais c'est comme ça qu'on est segmenté. Moi, je fais ces deux secteurs-là. Donc, cinq clients uniquement dans mon portefeuille. Mais comme c'est des grands groupes, et c'est la même chose pour tous mes collègues dans l'équipe, on a, comme c'est des très grands groupes, il y a beaucoup d'entités en fait à aller chercher sur lesquelles on va travailler. On est généralement assez bien, par exemple, avec la Com Corporate, qui va être la grosse casquette, et après, on va aller dans toutes les entités, dans toutes les business lines, et on va interagir avec plein d'entités, plein de marques, plein d'équipes différentes aussi. Ça peut être le marketing, ça peut être les RH, parce qu'il peut y avoir des campagnes de recrutement, et ils vont avoir en fait des enjeux qui sont hyper différent d'une équipe à l'autre et d'un client à l'autre, mais même dans la même verticale, ils vont avoir des enjeux de marque ou de marque employeur, de notoriété, de considération pour faire connaître leurs offres, leurs produits, de génération de trafic vers un site web, de génération de leads, d'inscrire un événement. Enfin voilà, ils vont avoir des choses très 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 différentes d'un client à l'autre. Et justement, ce que je dis, c'est à nous de comprendre leurs enjeux et puis de leur proposer les meilleures solutions pour répondre à ces enjeux-là particuliers en fait.
Alors, est-ce que côté outils, tu peux juste me faire une liste sans détailler parce que je vois les minutes qui défilent. Est-ce que tu peux me résumer un peu les principaux outils ?
On a forcément un CRM qui est Salesforce. Toute la suite de communication, donc Teams, on a Zoom, enfin ce type d'outils-là. Après, les vrais outils, on va se dire, c'est les mails, beaucoup d'emails, beaucoup de calls, donc surtout les outils qu'on utilise pour échanger avec nos clients, c'est ça. Et puis un autre outil que j'utilise depuis plus récemment, et ça ne va pas te surprendre, c'est le podcast. J'ai lancé un podcast en fait l'année dernière, et c'est ça qui m'a donné envie d'ailleurs de faire CSM.co, mais j'avais lancé un podcast interne pour les clients de LinkedIn Marketing, et j'envoyais ça, enfin j'en vois toujours d'ailleurs, je fais régulièrement j'envoyais ça à mes clients pour justement leur donner un peu d'inspiration, des idées, partager des bonnes pratique avec d'autres personnes de l'équipe, peut-être d'autres clients, ça va venir bientôt. Donc c'est un autre outil que j'avais développé qui est très bien reçu et qui crée des discussions. Tu vois, j'ai des clients qui m'appellent en disant ouais, j'ai bien aimé ce que Loïc, j'ai fait un épisode avec Loïc, partageait dans ton épisode. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait faire ensemble, tu crois? Est-ce que c'est un format qui fonctionnerait pour nous? Donc ouais, ça crée des discussions et je trouve ça hyper intéressant. En fait, l'idée, c'était au moment du premier confinement et tout ça. En fait, on avait beaucoup, beaucoup, nous, de data et d'inspiration de ce que faisaient plein de grandes entreprises, etc. Et on essayait de nourrir nos clients. Et en fait, on leur envoyait des emails. Et moi, je me suis dit, j'ai pris ma situation. J'étais confiné avec mes deux filles, du coup, qui n'allaient pas à la crèche. C'était hyper, hyper challenging. Et je me suis dit, mais moi, je ne lirai pas des newsletters avec plein de data points et tout ça. Et donc, je me suis dit, mais si je leur envoie un message vocal, en fait, parce que c'était ça à la base, c'était juste un lien SoundCloud, c'était pas vraiment un podcast, où je résume un peu toutes ces données et tout ça, ça peut peut-être leur correspondre. Et je me disais, moi, tu vois, c'est un truc que j'aurais écouté en jouant avec ma fille pendant que ma copine travaille, ou en faisant à manger, ou j'en sais rien, le soir. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être un format intéressant pour partager quand même ces infos sans que ce soit trop compliqué pour eux de les écouter, quoi. Et en effet, ça a marché.
Ouais, c'est une super bonne idée, ouais, top. Je te propose de passer à la partie retour d'expérience. Et peux-tu nous raconter, François, une anecdote gratinée ?
C'était dans l'équipe où j'étais avant marketing, Sales Solutions. Et on avait un rendez-vous stratégique avec un client. C'était un rendez-vous hyper important pour renouveler le contrat et le faire grossir. Donc, on était un peu installé chez le client, on avait pas mal de licences, mais on pouvait faire beaucoup plus. On savait qu'il y avait beaucoup de potentiel. Donc, l'objectif, c'était de faire un bilan du programme et de l'année écoulée et de proposer d'aller plus loin. Et on avait ce jour-là d'un interlocuteur très senior, dont la directrice commerciale. on l'avait jamais rencontré, mais on savait, on avait entendu dire par notre contact qu'elle était pas facile, qu'elle était hyper exigeante, un peu froide, etc. Donc on a 4 personnes en face de nous, grosses attentes pour eux forcément parce que il y a un investissement derrière, et puis pour nous aussi parce que mine de rien, c'est ça peut faire la différence, surtout pour le commercial. On avait bossé voilà, sur la presse, on s'était réparti les rôles, on avait tout organisé, on avait plein d'insights, des data, des recos, le devis, la totale, on était au top, on s'installe. Petit café, tout ça, bonjour, ça va. Et là, mon binôme sort et je trouve qu'elle est pas mal, cette phrase. Il fait « N'hésitez pas à me dire si je bafouille un peu, si c'est pas clair, parce que moi, quand je suis un peu fatigué, ça m'arrive. » Et là, je suis éclaté. Et comme ça, tu vois, de but en blanc. Et je viens d'avoir des jumeaux, ils ont 3 mois, c'est un enfer, je dors pas du tout. Et ils commencent à rentrer dans les détails de reflux, de biberon, de tout ça. Et tu vois, venu de nulle part, il y avait aucun contexte, c'était juste voilà, je risque de bafouiller, je risque d'être nul. Alors je me dis mais qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Ensuite il sort son ordi, il appuie pour l'allumer et là il fait ah, et en plus j'ai pas de batterie, bon bah voilà quoi, et il range son truc. Et là je me dis mais on va se faire massacrer en fait. Enfin, ils vont se dire c'est quoi ces gens, qu'est-ce qu'ils font là
en fait. Limite il a pris le bâton pour se faire battre là.
Bah c'est l'impression que j'avais au début, et mais en fait ce qui est assez bizarre, enfin ce qui s'est passé, et ça m'a appris un peu pas mal de choses en fait. En fait, cette authenticité qu'il a eue, la proximité qu'il a établie, ça a détendu tout le monde direct. C'était assez fou. Moi, ça a fait baisser la pression. Tu vois, je me suis dit, bah, de toute façon, je peux pas faire pire que ça. Enfin, tu vois, je peux pas me mettre moins bien, moins à l'aise avec les clients. Et en fait, le rendez-vous, il s'est hyper bien passé. On a fait, je crois, x5, un truc comme ça sur le contrat. C'était franchement top le meeting. Et en fait, j'ai compris 2 choses, je crois, ce jour-là. Parfois, en fait, cette posture qu'on a souvent en tant que commercial, tu vois, d'être un peu, d'essayer de prendre de la hauteur, d'être très, je sais pas, un peu rigide, un peu, je sais pas, sales, consultant, d'être, voilà. Parfois, quitter cette casquette-là et être authentique, fissurer un peu l'armure, tu vois, ça change la dynamique d'une relation. En fait, on est, faut pas oublier qu'on est des humains qui parlons à des êtres humains. Et puis, il y a des jours, voilà, on se sent pas au top, on n'a pas dormi, on s'est blessé la veille, j'en sais rien. Et en fait, ça nourrit beaucoup, en fait, la relation. Tu vois, c'est aussi pour ça que je commence, quand je me présente, souvent, je parle de mes filles tout de suite. Et ça permet de créer aussi une proximité avec les clients et de parler d'autres choses. Et je trouve ça hyper important. Et ça, c'est ça pour moi qui permet de construire sur le long terme, plus que d'avoir uniquement des bons conseils. Alors, faut en donner aussi, mais d'avoir les deux dimensions. Et puis aussi, ce qui m'a montré ce jour-là, c'est l'importance en fait de savoir qu'on peut compter sur son binôme. Encore une fois, on fait un travail d'équipe. On n'était pas incentivé sur les mêmes choses, mais maintenant je le suis. Et en fait, ce jour-là, ce que je me suis dit quand il a commencé comme ça, je me suis dit, en fait, il me fait confiance. Mais de fou quoi, en quelques phrases, en début du meeting, j'ai eu un message subliminal qui me disait « Franchement, je compte sur toi, aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour moi, je vais pas y arriver ». Ça se travaille, ça prend du temps, on avait bossé ensemble depuis un bout de temps, mais une fois que ça marche dans les deux sens, je pense que le binôme, il est inarrêtable et il peut sortir de toutes les situations, dont celle-là, sans parler, sans se regarder, parce que ce jour-là, j'ai pas osé le regarder, je me suis dit « je vais éclater de rire ». Et donc voilà, c'est mon binôme éternel, on va dire. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose aussi dans notre relation, et je trouve ça, voilà, ça, c'était un peu l'anecdote que j'avais envie de raconter, parce que c'est assez, assez fou.
Allez, elle est mignonne ton anecdote avec ton binôme. Et à contrario, est-ce que tu peux me raconter une situation peut-être plus délicate qui t'est arrivée?
Ouais, alors toujours le même rôle, alors pas avec le même binôme, avec un autre où j'avais quelques clients, c'était mon plus gros client à l'époque. Donc dans cette équipe-là, un client qui avait à peu près 300 licences de notre solution, donc c'était un gros programme en tout cas au stade où on était à ce moment-là. Et on avait une relation hyper forte avec eux, on avait des succès en interne, des champions, des décideurs. Tout ça, on avait vraiment la totale, un super programme. On cochait toutes les cases du programme qui cartonne, on va dire. Et on avait, le jour dont je vais te parler, un rendez-vous avec eux. C'était un mois et demi avant le renouvellement à peu près, pour faire un bilan du programme et se projeter en fait. Donc un peu pareil, le même type de meeting que le précédent. C'est souvent dans ces gros meetings-là qu'il se passe des choses intéressantes. Et on arrive hyper serein, avec tous nos indicateurs au vert, tu vois, tout ce que je viens de te dire, on cochait toutes les cases du programme qui marche bien. Et on avec un projet qu'on avait un petit peu mis en place avec le sales, qui était de leur faire croître le programme pour faire x4 sur 2 ans. Et donc vraiment de couvrir quasiment tous les commerciaux de la boîte. Et on se disait, ça doit pouvoir passer, parce que c'est vraiment, ils sont dans cette dynamique-là, il y a tout, encore une fois, tous nos indicateurs au vert, donc on commence à parler de tous les résultats, ça se passe bien, on est aligné, tu vois, ils voient la valeur, ils sont hyper contents. on déroule et tout va bien. Et au moment où on parle de l'expansion du programme, ils nous stoppent et ils nous disent, voilà, là-dessus, par contre, en fait, ça ne sert à rien de nous présenter tous ces schémas-là. Nous, on a déjà décidé et on pense que c'est mieux de se recentrer sur vraiment les gros utilisateurs pour voilà, relancer la dynamique. Donc, on va réduire de moitié. Et donc, alors, c'est pas le moment le plus dur en termes de durée, tu vois, c'est pas un moment qui a duré très longtemps, mais au moment où t'as un client, ton plus gros client qui t'annonce qu'il va churner la moitié de ses licences, c'est un moment qui est assez compliqué, on s'y attendait vraiment pas du tout, tu vois, il y a des rendez-vous où tu t'y attends un peu parce que tu sais que ça marche pas très bien, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et où t'es plus là pour sauver un peu le programme. Mais là, on est vraiment dans un objectif de croissance et on le voyait vraiment, ce programme, quoi. Et donc là, gros choc. Donc c'est un moment assez dur dans le sens où on n'est pas du tout préparé, on s'y attend pas. Et là, voilà, la décision semble déjà prise, quoi. Ça a l'air compliqué de faire demi-tour. Moment de flottement, on se reprend un peu, on pose des questions, on essaie de comprendre pourquoi ils ont cette pensée-là. C'est un peu... ouais, tu vois, le commercial, il tente de parler, de monter peut-être plus progressivement, de réduire l'impact budgétaire, de choses très, très sales, en fait. On leur reparle des indicateurs ouverts, tout ça, mais rien du tout, rien n'y fait. Et en fait, là, j'ai pris un peu le contre-pied. Donc, franchement, on était un peu perdus tous les deux. C'était un peu, un moment assez dur, même si ça a été assez court, ça a été vraiment compliqué. Et en fait, ma réaction, ça a été de me dire, OK, on va changer complètement la dynamique du truc. Et j'ai tenté un peu un coup de poker, on va dire. Et je lui ai dit, et c'était un coup de poker parce que s'il n'y a pas de renouvellement, le sales, lui, était vraiment, vraiment pas bien parce que c'était son plus gros client, il loupait son année, quoi, grosso modo. Et donc, moi, je le regarde, je fais OK, bah, écoutez, je vais vous dire vraiment très honnêtement, moi, en fait, ça m'arrange. Ah. Et c'était vrai, à cette époque-là, moi, je sais, ça choque, il a réagi pareil, le sales. En fait, le truc, c'est qu'on n'était pas alignés sur les mêmes KPI. Lui, il avait un KPI de croissance du compte, moi, j'avais un KPI de santé du compte. Et en fait, 300 licences avec la moitié qui était pas super santé, tu vois, qui s'en servait, mais pas non plus de dingue, mon indicateur, il est rouge, alors que si j'ai plus que 150 licences, mais qui s'en servent tous très bien, mon indicateur, il est vert. Et comme c'est un gros client, ça monte tout mon portefeuille. Donc, c'était vrai. Quand je leur disais, moi, ça m'arrange, c'était vrai. Donc là, le sel à côté de moi, il se demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Alors, je le regarde pas, hein, parce que je sens qu'il est vraiment choqué. Et puis, j'enchaîne et je lui dis même, je vais te dire la vérité, si tu churnes la moitié des licences maintenant, le mieux, c'est de tout arrêter, en fait. Et donc, je leur explique que, que s'ils réduisent maintenant de moitié, alors qu'on est sur une bonne croissance, ça fait plusieurs années qu'ils en rajoutent, que le programme se marche bien, qu'on a fait des formations un peu partout pour tout le monde, qu'on commence à avoir des champions, des exemples de succès et tout ça. Je leur dis, si on le fait maintenant, qu'on a tous nos indicateurs au vert et que vous en churnez la moitié, en fait, vous rentrez dans une spirale où les gens vont se dire, mais en fait, ça marche pas. S'ils y croient plus, s'ils coupent le truc, ça veut dire que ça marche pas et je vois pas pourquoi je passerais, que j'investirais du temps sur un outil qui, de toute façon, disparaîtra dans peut-être 2 ans parce que, ils y croient plus, quoi. Et donc, j'aurais mis un peu le doute comme ça. Et ils se sont dit, mais en fait, il a raison, quoi. Et alors, pour être honnête, c'est pas exactement, je pense, ces mots-là que j'ai utilisés à ce moment-là. Je me rappelle plus de ce que je leur ai dit, mais c'est l'histoire que je leur ai racontée. Et en fait, le truc, c'est que j'avais vraiment cette position, en effet, de moi, ça m'impacte pas, grosso modo. Et j'étais vraiment détaché du revenu à ce moment-là, ce qui était hyper important dans ce rôle que j'avais de Customer Success Manager, de trusted advisor, on va dire, c'était hyper important d'avoir ce détachement. Et comme j'avais construit une relation depuis 2 ans avec eux, où je leur avais régulièrement apporté de la valeur, que je leur avais donné les bons conseils, que je leur avais aidé à structurer un programme qui fonctionnait, etc. En fait, tout ce que je leur ai dit là, avec ce détachement, ça a résonné. Tu vois, si le commercial, à ce moment, il leur avait dit la même chose que moi, je pense qu'ils auraient dit, c'est normal, lui, il regarde son chiffre. Mais le fait que ce soit moi qui le dise et que je rappelle au début, pour peut-être les deux personnes qui n'avaient pas cette info, que moi, j'étais détaché de ça et que ce n'était pas mon problème, en quelque sorte, ça les a fait réfléchir. Et au final, donc, ils sont partis de la réunion avec toujours le même, toujours l'envie d'en faire la moitié, mais avec un petit doute. Et au final, ils ont gardé le même scope du nombre de licences. Et après, c'est reparti. Alors, c'était plus moi. Après, j'ai changé de rôle. Après, c'était un de mes derniers faits d'armes, on va dire, sur ce client-là et sur mon rôle avant de changer d'équipe. Mais après, ils ont continué à croître. À partir de là, ils ont été bien accompagnés. Du coup, ça a fonctionné. Mais la leçon vraiment que j'avais ici, dans une situation compliquée comme celle-là, c'est que d'avoir ce statut de trusted advisor, c'est ça qui va faire la différence. D'avoir créé cette relation, et tu vois, j'en parlais déjà avant, on est dans des relations humaines, etc. D'avoir créé cette relation, c'est ça qui finit toujours par payer sur le long terme. Ça peut être beaucoup d'investissements de temps sur le court terme. On passe beaucoup de temps sur des petits projets qui peut-être, on se dit, ça en vaut pas la peine. Mais sur le long terme, c'est ça qui finit par payer, quoi.
Waouh, bah dis donc, je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation. Toi qui as toujours, une idée à l'avant-garde, est-ce que tu pourrais me renseigner sur ta vision, toi, de l'évolution de nos métiers, voilà, quel que soit l'intitulé, mais tu vois, de nos métiers de post-closing?
À l'avant-garde, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de tendances qui se dessinent. Il y en a trois, et je vais le faire très rapidement, qui pour moi vont marquer un petit peu ce qui va se passer. Il y a de la partie spécialisation des rôles. Donc, notamment, tu vois, dans le Customer Success, on a de plus en plus de rôles très spécialisés, onboarding spécialiste, renewal spécialiste, scale manager. On a des touchpoints qui sont beaucoup plus limités dans le temps, mais qui vont apporter un maximum de valeur sur une période très courte, à un moment hyper précis du contrat. Le deuxième point, c'est justement cette valeur. On ne vend pas des produits ou des services, mais on vend des programmes, des transformations digitales, etc. Donc, de la valeur pour les entreprises, c'est déjà vrai, tout ça, on est déjà rentré dedans. Mais ce qu'on voit, c'est que les acheteurs, ils font déjà quasiment tout leur parcours d'achat sur Internet avant de parler à un commercial. Et donc, en fait, plus on va réussir à apporter de la valeur, plus on va avoir des plus-values qui permettent de se différencier, d'être, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas une régie publicitaire, on apporte beaucoup d'autres choses autour, plus on aura de chances de continuer à faire croître le business. Et puis, le dernier point, c'est, je pense qu'on va vers toujours plus de data. On en a parlé, je l'ai dit plusieurs fois, on a beaucoup de données en tant que CSM, AM, etc. pour savoir ce qu'on doit prioriser, quelle valeur on va apporter. Donc, je pense que on est au début de tout ça, qu'il y aura encore plus d'outils. Je parlais avec un éditeur, dans le cas de CSM Zanco, un éditeur de logiciels, qui me disait qu'il y avait à peu près 10%, 10, 12, 14, quelque chose comme ça, enfin à peine plus de 10% des CSM qui étaient équipés d'une solution comme ça pour gérer leur portefeuille. Donc je pense qu'on va, ça va se développer, on va avoir plus de data, plus d'intelligence artificielle, d'automation, etc. pour automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée et se concentrer encore une fois sur la livraison de valeur qui est, je pense, hyper essentielle dans l'évolution de nos métiers.
Et toi, tu as un outil de BI avec lequel tu travailles ?
Ouais, on a plusieurs dashboards. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est derrière comme outil. Je crois qu'on a Tableau, je crois qu'on a Power BI aussi. Et selon les dashboards, on a plusieurs outils, mais on a énormément de data visualization comme ça pour suivre tous ces KPI dont je te parlais tout à l'heure.
Alors, je termine avec ma question rituelle qui est quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton quotidien et pourquoi ?
Question compliquée celle-là. Franchement, je la pose pas dans le podcast, je comprends pourquoi. Elle est franchement compliquée. J'ai cherché au début sur un livre et comme je lis quasiment que des thrillers, mon quotidien n'est pas aussi sanglant que ça non plus. Sur la musique, j'ai cherché aussi, j'ai retourné tout mon catalogue rap. Au final, je me suis arrêté sur une chanson qui n'a rien à voir, qui est Mistral Gagnant de Renaud, que je trouve peut illustrer un peu. Alors, au-delà du fait que c'est une de mes chansons préférées, que je trouve que c'est la plus belle chanson française qui existe, et qui est le mot gagnant dedans aussi, succès, tout ça. Alors, en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et parler de tout et de rien. Et je pense que, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on crée une relation avec un client, c'est hyper important de savoir à un moment s'arrêter, arrêter le business. Et puis juste d'être humain et discuter de choses qui n'ont rien à voir. Et je pense qu'on l'a beaucoup vu ces derniers mois, justement, avec tout le contexte. Et puis la deuxième chose que j'ai retenue, je me permets, c'est un film, c'est Inception, qui est aussi un film que j'aime beaucoup. Mais c'est ce côté, en fait, de ne pas s'arrêter à une réponse et à une situation et d'aller, en fait, creuser toujours plus loin pour mieux comprendre les attentes, les objectifs de nos clients. Donc, de ne pas s'arrêter à un premier niveau de lecture et de tout de suite trouver une solution, mais de continuer à creuser et de passer plusieurs niveaux comme ça et d'aller un petit peu plus loin derrière, voir ce qui se cache derrière les enjeux ou les objectifs que le client a partagés dans un premier temps.
Merci encore, François. C'est trop chouette d'être venu. Et puis, je te dis à très vite.
Écoute, merci à toi. C'était très rigolo de passer de l'autre côté du micro. C'était impressionnant aussi, mais ça me fait très plaisir d'avoir pu partager avec toi. Et en effet, ça pourrait durer des heures. Donc, merci beaucoup.
Salut, ciao.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux. Car ils ont l'avantage d'être deux. Ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Mistral gagnant.